Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue dans un hors-série de 28 minutes pour un bilan de l'année 2021 sous l'angle de l'environnement, du dérèglement climatique et de la transition écologique. Notre invité ce soir, aux joies, Jean-Marc Jancovici, ingénieur polytechnicien, enseignant à l'école des mines entre autres, Janco, comme disent ses groupies, ses turiféraires, assume ses positions en faveur du nucléaire et assume aussi d'être le héros d'une bande dessinée absolument sans sas, signé Christophe Blain, Le Monde sans fin. Nous reviendrons avec Jancovici sur les enjeux de la transition écologique, comment élaborer un nouveau modèle économique et social pour limiter le réchauffement de la planète. Et puis nous reviendrons aussi, bien sûr, sur le nucléaire qui fournit une énergie décarbonée mais qui génère déchets et angoisses. Nous recevrons dans la deuxième partie de ce hors-série une vigneronne, Sylvie Augereau, qui fabrique, on dit fabrique, du vin de façon naturelle, du vin artisanal dans la vallée de la Loire. Et nous terminons avec le facétieux mélomane Mathieu Conquet et À la loupe, consacré à Brassens ce soir. Bonsoir Jean-Marc Jancovici.
Bonsoir.
Je vous présente Alain Ndiaye. Bonsoir chère Anna. Bonsoir, et Elisabeth. Benjamin Papillon Sportouche.
Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir cher bonsoir. Benjamin Papillon. Jancovici, Blain, Le Monde sans fin chez Dargo. Splendide BD, ultra dense. Il faut une bonne journée pour la lire et pour l'apprécier. Comment se fait-il que vous ayez accepté ?
C'est beaucoup moins que ce qu'on a mis à l'affaire.
J'imagine des mois et des mois, des dizaines d'heures de conversation pour Christophe Blain qui prenait des Doliprane de manière absolument intense. Pourquoi la BD ? Pour toucher une génération, des générations différentes.
Alors,
quant aux enjeux de l'environnement.
C'est Christophe qui m'a contacté en fait, ouais, pour cette BD. Et il se trouve qu'au moment où il l'a fait, ça faisait déjà un petit moment que me trottait dans la tête l'idée d'aller faire quelque chose dans le domaine artistique. Alors, pas moi, parce que quand je dessine une vache, on dirait un cochon et je chante comme une
vous
casserole.
Vous avez un crayon tout à l'heure.
mais par contre, j'étais intimement persuadé que c'était un sujet sur lequel c'était intéressant d'aller s'inviter en dehors de l'enceinte des cours et des, j'ai envie de dire, des débats sérieux, ordinaires. Et donc l'idée de passer par la fiction, d'une manière ou d'une autre, était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et alors quand il m'a contacté, je dois dire que j'ai hésité la moitié d'un quart de seconde.
Oui, vous étiez émerveillé, vous étiez éberlué même.
J'étais flatté, honoré et en plus très intéressé. Et ça a vraiment été extraordinairement agréable de travailler avec lui parce qu'en fait, il savait déjà tout avant qu'on commence à travailler ensemble.
Et il faisait semblant de ne pas le savoir.
Et il a fait le livre. Vous savez, un auteur fait toujours le livre que vous auriez aimé trouver sur étagère et que vous n'avez pas trouvé. Et donc, en fait, le livre dont il avait besoin, lui, c'était le livre pour passer le message à quelqu'un d'autre.
D'accord.
Quand vous avez compris quelque chose, mais que vous n'en êtes pas encore au stade où vous pouvez le réexpliquer.
Très bien.
Voilà. Et donc, c'est exactement ça qu'on a fait ensemble.
La finitude au sens métaphysique ou au sens des ressources ? Ou au sens des deux, d'ailleurs ?
Alors,
finitude comme élément clé de la condition humaine ou
Alors, c'est plutôt au sens des ressources dans le livre. Mais en fait, c'est évidemment, le titre est un sous-entendu, c'est l'histoire qui est censée ne jamais s'arrêter.
Alors, on en parle évidemment avec vous dans un instant. Mais d'abord, Jean-Marc Jancovici, votre portrait réalisé par Amira Swilem.
Aïe, aïe.
Oui.
Janco, c'est le surnom que lui donnent ses partisans. D'aucuns diraient ses disciples. Si Jean-Marc Jancovici a fait Polytechnique, c'est à l'école des mines qu'il enseigne. Bien au-delà de la future élite des ingénieurs, ses cours fascinent des centaines de milliers d'internautes.
On va vraiment avoir besoin des cervelles le mieux sélectionnées du pays pour s'attaquer à un des problèmes les plus durs qu'on va avoir à résoudre, qui est de garder un système à peu près stable dans un contexte de contraction des ressources disponibles.
Fils d'un physicien, Jean-Marc Jancovici se passionne très tôt pour le réchauffement climatique et invente le bilan carbone qui quantifie nos émissions de CO2. Pour lui, puisque les ressources de la planète s'épuisent, nous sommes contraints à la sobriété, quitte à frapper le consommateur au porte-monnaie.
En fait, ce qui peut nous sauver, et c'est quelque chose de très désagréable à entendre, c'est d'accepter, exactement comme on l'a fait pour le tabac, l'idée qu'il faut monter le prix de ce qui pose problème plus vite que notre pouvoir d'achat.
Discret sur sa vie privée, ce père de deux filles se montre fort disert quand il s'agit de propager ses idées sur la culture, la santé, l'emploi ou encore le logement. Jean-Marc Jancovici crée un think tank qui suscite souvent la controverse, à commencer par sa défense du nucléaire. D'autant que l'ingénieur professeur de 59 ans donne volontiers la leçon à tous ses interlocuteurs.
Vous savez quel est l'accident d'installation de production électrique qui a fait le plus de morts dans le monde ?
Lorsque je vous pose une question, vous répondez par une autre question.
Oui,
c'est un procédé que je connais bien, mais
je suis pas en train de faire Rabbi Jacob. Je suis en train de vous poser une vraie question.
Cassant et suffisant, diront les uns. Caustique et brillant, diront d'autres. Une chose est sûre, Jean-Marc Jancovici au micro, c'est toujours une sacrée dépense d'énergie.
Le portrait n'avait pas le temps d'évoquer votre jeunesse de môme surdoué, un peu erratique. Il paraît que vous avez même travaillé dans une boîte de production de cinéma.
Des petits films institutionnels.
Ah bon,
pour
ah, beaucoup moins drôle.
Beaucoup moins drôle.
Beaucoup moins passionnant et beaucoup moins drôle. Précisément, Jean-Marc Jancovici, à quel moment avez-vous cette révélation, cette épiphanie que la question climatique et environnementale était fondamentale et que tout tournait autour de ça, notre avenir à nous tous, civilisationnellement parlant?
J'ai commencé à m'intéresser au sujet à la fin des années 90, complètement par hasard.
En lisant un bouquin
Non, en travaillant pour l'ancêtre d'Orange, qui à l'époque s'appelait France Télécom.
En travaillant sur le télétravail?
Exactement. Ouais. En travaillant sur, en fait, les services de télécommunication qui allaient éventuellement permettre de substituer des déplacements ou de faire des choses à distance. Donc c'était tout ce qui était téléactivité, télétravail, téléenseignement, télémédecine, etc., qui sont tous devenus des réalités du reste aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, je suis tombé sur économie de déplacement, économie d'émissions de gaz à effet de serre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, j'ai commencé à creuser. Et j'ai mis longtemps avant d'en arriver à ce qui est présenté dans cette BD. C'est-à-dire qu'en fait, de ramasser petit à petit les différents morceaux du puzzle pour arriver à une vision qui se tienne, qui ait sa propre cohérence, ça m'a quand même pris 10 ans.
Climat, énergie, ouais. C'est ça.
Et alors, on l'a entendu là dans votre portrait, le bilan carbone, c'est vous qui en êtes à l'origine. Hein, c'est un indicateur qu'on entend en parler partout, tout le temps. Comment vous est venue l'idée? Et d'ailleurs, je crois que vous n'en avez pas le brevet.
Alors, je n'en ai jamais cherché à avoir le brevet. En fait, le bilan carbone a été développé, effectivement, par votre serviteur, mais pour le compte de l'ADEME, car à l'époque...
L'agence
de l'environnement française. Car à l'époque, ça ne m'intéressait... Enfin, ça me paraissait sans aucune pertinence d'être propriétaire d'une méthode que j'aurais été le seul à pouvoir utiliser dans ma cave. Ça n'aurait pas eu de portée. C'était beaucoup plus intéressant de faire une méthode publique, et dont ensuite j'allais, qui allait me permettre de vivre, entre autres choses, parce qu'à partir du moment où on crée une méthode, il y a toujours 3 personnes qui vous demandent de l'appliquer. Donc effectivement, cette méthode, c'est le bilan carbone. Et j'ai eu l'idée en regardant la manière, en partant d'un constat très simple, qui est que les émissions de gaz à effet de serre sont sans importance quant à leur localisation. À partir du moment où vous dépendez d'émissions de gaz à effet de serre, qu'elles aient lieu en Chine, en France, au Zimbabwe ou au Pérou, ça n'a strictement aucune espèce d'importance à cause du temps de résidence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est très très long. Et donc, je me suis dit, ça vaut le coup de regarder toutes les émissions qui sont la contrepartie de tous les processus dont vous dépendez, indépendamment du fait que c'est chez vous, pas chez vous, en France, pas en France. Voilà. Parce qu'après, quand vous voulez passer à l'action... C'est intéressant de regarder où, avec des moyens donnés, vous allez le plus baisser des émissions. C'est ça qui est de la pertinence. Et ce n'est pas nécessairement les émissions chez vous que vous allez baisser le plus facilement quand vous y affectez des moyens. Ça peut être de changer de fournisseur, ça peut être de changer de moyen de transport. Là, vous n'avez pas les camions. Enfin, voilà, on peut faire des tas de choses. Et donc, l'idée m'est venue comme ça.
Jean-Marc Jancovici, dans le bouquin que vous avez fait avec Christophe Blain, je rappelle pour mémoire qu'il est l'auteur de Quai d'Orsay, une bande dessinée qui a eu un succès fou, il y a même eu un film. À propos de l'économie qui ressemble sur les machines, qui repose sur les machines, vous avez forgé, pour cette BD, mais peut-être même en amont, l'équivalent esclave. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent ce que serait un Français connecté aurait besoin de, approximativement, 600 esclaves s'il n'y avait pas de machine pour lui fournir l'énergie?
Alors, le début de l'histoire, c'est de se rappeler qu'en fait, l'énergie est utilisée, mangée, on dit parfois, par des machines. Personne autour de cette table ne boit de pétrole au petit déjeuner, enfin, je ne pense pas que vous fassiez ça très souvent, et vous ne respirez pas plus de gaz pour tout d'un coup cracher de l'électricité. Oui, ne faites pas ce genre de choses. Donc, en fait, utiliser de l'énergie, c'est utiliser une machine. On le voit bien, hein, brancher un appareil sur la prise, c'est en fait utiliser l'appareil. Et quand vous regardez la puissance totale de toutes les machines qui existent sur Terre, vous vous rendez compte qu'elles démultiplient la puissance de l'humanité par à peu près 200. Alors c'est un calcul au premier ordre. En fait, il faut comparer la puissance de nos muscles. Par exemple, si vous partez de Chamonix le matin et que vous montez au sommet du Mont Blanc dans la journée...
On n'est pas rendu, je peux vous dire. Oui, eh bien ?
Eh bien, sur la journée, vos jambes auront développé une puissance d'à peu près 100 watts, en moyenne, hein. 100 watts, c'est pas beaucoup. Hein. Le premier mixeur à soupe venu, il fait 400 watts, donc 4 fois vos jambes.
Eh bien, écoutez, c'est une leçon d'humilité, là.
Premier ascenseur venu, il fait 50 fois, une paire de jambes, etc. Donc, en fait, on peut comme ça transposer les machines en équivalent paire de jambes. Et en fait, c'est ça, l'équivalent esclave, c'est la quantité de travail, la quantité d'énergie qu'un être humain est capable de fournir sur une année. Et quand on divise la quantité d'énergie qu'utilise un Français dans l'année par l'énergie que peut fournir un être humain dans l'année, on arrive à ce multiple de 600. Alors, c'est une autre manière de dire que si on n'avait pas sur Terre les machines qui utilisent du pétrole, du gaz, du charbon et plus marginalement des chutes d'eau, du vent ou de l'uranium, eh bien, pour avoir le même niveau de vie qu'aujourd'hui, les gens qui nous regardent devraient avoir 600 esclaves à leur disposition en permanence.
C'est très clair.
C'est ça que ça veut dire.
Vous parlez comme ça aux politiques ?
Oui.
Vous leur... hein, c'est ce qu'on se demandait.
Parce qu'on a une échéance présidentielle.
Avec ce genre d'image.
Alors il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent, qui vous regardent sur YouTube en particulier.
Envoyez cette BD dédicacée à M. Macron et le service du courrier de M. Macron nous a très gentiment répondu que c'était bien aimable à nous d'avoir envoyé la BD.
Et qu'à lui ? Il n'y a pas d'autres candidats ?
Non, parce qu'on a considéré qu'il était l'incarnation de l'État. Donc, on s'est tâté avec Christophe, on s'est dit, est-ce qu'on en envoie à tous les candidats ? Est-ce qu'on en envoie à tous les ministres, etc. ? Puis finalement, on s'est dit non, ça dévaloriserait la chose. Donc, en fait, on va en envoyer qu'une seule. Enfin, on va envoyer qu'un seul exemplaire dédicacé. On l'envoie au président parce qu'il incarne finalement toute la classe politique. Ou plus exactement, il incarne la fonction politique.
Oui, il incarne la fonction politique. Vous n'êtes pas toujours très tendre avec les politiques. Vous considérez qu'ils ont une vision à court terme. Est-ce que vous seriez d'accord avec quelqu'un que vous admirez, le physicien Denis Meadows, qui était à l'origine en 72 du fameux rapport, il était au MIT, le rapport pour le Club de Rome, et qui a dit, c'était il y a 10 ans, si j'étais un magicien, j'allongerais les mandats des politiciens pour qu'ils se posent les bonnes questions sur les conséquences à long terme de leurs actions. Le problème des hommes politiques, c'est le court-termisme.
On va recycler quelqu'un qui a précédé Meadows historiquement, qui a dit exactement la même chose, qui est Tocqueville. La démocratie et les mandats électifs, renouvelés à intervalles réguliers, rapides, raccourcissent les horizons de temps.
Mais vous êtes contre la démocratie ?
C'est très très clair. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis contre la démocratie, je vous dis que c'est un système qui a un effet collatéral qu'on a beaucoup de mal à éviter, qui est le fait que la représentation élue, est une représentation court-termiste. Alors ça veut dire que si on veut avoir des objectifs de long terme dans une démocratie, le problème est à prendre à la racine, c'est-à-dire que c'est la population qui doit désirer ces objectifs de long terme et pas les élus. Mmh. Autrement, si on veut que les élus aient des objectifs de long terme, il faut s'adresser à la population.
Alors des objectifs et quelque chose de concret, on en parle avec vous Anna, chèque énergie, précarité énergétique, ça, vous travaillez là-dessus aussi, Jean-Marc Jancovici.
Tout à fait, l'hiver est de retour depuis une semaine et avec lui, eh bien, la peur de manquer de chauffage pour 12 millions de Français. Cela concerne un ménage sur cinq selon l'Observatoire national de la précarité énergétique. Alors cette expression précarité énergétique, eh bien, elle évoque les difficultés d'accès à l'énergie par manque d'argent ou à cause d'un logement inadapté, les fameuses passoires thermiques. Cette précarité, elle peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé, maladies respiratoires, accidents cardiovasculaires ou encore perturbations de croissance chez le nourrisson. Et avec la flambée actuelle des prix de l'énergie partout en Europe, eh bien, la situation devient préoccupante. En 2021, 60% des Français auraient restreint volontairement leur consommation pour éviter une grosse facture. Alors pour permettre aux familles les plus modestes de payer leur facture d'énergie et de financer des travaux de rénovation énergétique, le gouvernement déploie depuis 2018 un chèque énergie annuel d'un montant de 150 euros en moyenne. En avril dernier, les foyers éligibles ont déjà touché un premier chèque et le premier ministre Jean Castex en a annoncé un second d'ici la fin de l'année d'un montant forfaitaire de 100 euros. Coût de cette mesure pour l'État, 580 millions d'euros. Jean-Marc Jancovici, en voulant légitimement protéger les plus vulnérables, les politiques envoient-ils un mauvais message, sachant qu'il faudra payer cette transition et surtout qui va la payer ?
En fait, cette question, elle est connectée à la question précédente qui est celle de l'horizon de temps. Au moment où l'incendie se déclare, c'est-à-dire au moment où les prix de l'énergie s'envolent, le gouvernement, quelque part, n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'il éteigne l'incendie. Maintenant, la bonne question, c'est est-ce qu'il attend l'incendie d'après ou est-ce qu'il commence à faire autre chose ? Le prix de l'énergie qui aujourd'hui fait mal aux ménages, c'est le prix du gaz et le prix du fioul, c'est-à-dire le prix des hydrocarbures, un peu aussi le prix de l'électricité, mais le mécanisme à l'origine n'en est pas le même. En ce qui concerne le gaz et le fioul, la solution de long terme, elle est très simple, il faut s'en débarrasser.
Ça prend quelques
décennies. Et tant qu'on ne s'en est pas débarrassé, de temps en temps, il y aura des pics comme ça, tout simplement parce que la disponibilité de l'énergie, elle est pas, c'est une des choses qu'on explique là-dedans, elle va aller en baissant. Et donc, dans un monde qui dépend de l'énergie avec une disponibilité qui va en baissant, de temps en temps, vous avez les prix qui font n'importe quoi. Donc il y a une vision de long terme à avoir pour ce qu'on appelle la rénovation thermique des logements. Donc la rénovation thermique consiste à faire deux choses. D'une part, à diminuer les besoins en chauffage. Donc ça veut dire toucher à l'enveloppe. Ça veut dire, épaissir un peu les murs avec de l'isolant, toucher aux fenêtres. Fenêtres, ce n'est pas le principal. C'est vraiment les murs, les toits, les combles, etc. Et puis, dans un deuxième temps, il faut remplacer ce qu'on appelle le vecteur de chauffage, donc l'énergie qu'on utilise pour se chauffer. Et là, horreur, passer à l'électricité et plus exactement à la pompe à chaleur. Donc, en fait, il faut remplacer les chaudières à fioul et les chaudières à gaz progressivement par des pompes à chaleur, en commençant par le fioul, parce que c'est ce qui émet le plus. C'est là que vous avez la plus grande précarité énergétique. Quand vous regardez où sont les précaires énergétiques, vous en avez énormément qui sont dans des maisons chauffées au fioul. C'est très surreprésenté. C'est aussi ces gens-là qui sont parfois des gilets jaunes, parce que c'est souvent des gens du monde rural, parce que ailleurs, c'est le gaz qui, en général, s'est installé. C'est des logements souvent anciens. Que quand c'est moderne, il y a plus d'électricité. Donc c'est vraiment par ces logements-là qu'il faut commencer. Et si on avait fait ça, si on s'y était attaqué sérieusement il y a 10 ou 15 ans, alors ça va bien de dire si, etc. Mais donc ça veut dire que demain matin, il faut s'y attaquer, quoi, en gros. C'est ça, c'est une urgence.
Demain matin, c'est les vacances, mais à la rentrée, c'est promis, Jean-Marc Jancovici. Alors, on a fait beaucoup de débats cette année, comme les années précédentes d'ailleurs, autour de la transition écologique, avec à chaque fois cette question des changements de comportement concrètement. Faut-il les inciter ou faut-il les imposer ? Un résumé des débats et on en parle avec vous juste après.
Toute la problématique, c'est une problématique de transformation. Il faut... dans les 30 ans qui viennent, donc dans l'espace d'une génération, il faut réinventer et redéployer un modèle qui est complètement différent de celui qui a été construit au cours des deux siècles précédents, c'est-à-dire le modèle fossile. Et donc cette transformation complète de nos modes de consommation, de nos modes de production, va nécessiter un effort considérable. Après, la question, effectivement, c'est comment on réalise cet effort considérable. Et c'est là qu'on a des divergences sur la façon de réaliser ça, c'est-à-dire soit de décroître, soit au contraire... investir pour transformer ce modèle économique, c'est ce que je pense.
La responsabilité pour lutter contre le changement climatique, bien sûr, elle est à tous les niveaux. Il y avait une étude très intéressante qui montrait que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, 25% de l'effort, c'était le citoyen. C'est-à-dire que même si on fait le maximum pour améliorer nos modes de vie, moins consommer, moins se déplacer en voiture, moins prendre l'avion, etc., c'était 25% de l'effort. Les 75% restants, c'était l'État, les collectivités et le secteur privé.
Je pense que tout le monde peut être d'accord, il faut accélérer. Il faut accélérer pourquoi ? On n'est pas sur la trajectoire des plus 1,5 degrés à 2050. Donc on n'est pas dans la trajectoire des accords de Paris. La France émet 300 millions de tonnes à peu près, équivalent CO2 par an. On est un petit émetteur à l'échelle mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, pas du tout. Le problème qu'on a, c'est qu'on importe 2/3 de nos biens manufacturés, de nos produits. On importe beaucoup. Et on importe en même temps des fuites de carbone. L'industrie française a baissé ses émissions CO2, mais si c'est pour importer des produits à fort contenu carbone, notre bilan carbone s'en ressent et on ne s'en sort pas.
En tout cas, c'est un axe intéressant de rapprocher le producteur et le consommateur, de toute façon. Donc ça pose la question de comment faire. On voit, soit c'est subventionner l'industrie, soit c'est mettre ce qu'on appelle des taxes carbone aux frontières européennes. Et ce mouvement de relocalisation, effectivement, est compatible avec la question de soutenabilité
écologique. Et il est amorcé.
Il est amorcé psychologiquement.
Seulement
aujourd'hui, on n'a pas de taxes carbone aux frontières. On a des aides assez limitées à la relocalisation industrielle. Il y a des enjeux de souveraineté et des enjeux effectivement écologiques qui sont assez compatibles, je crois.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème très abrupt qui est qu'on est extrêmement nombreux sur Terre et qu'on ne cesse d'être de plus en plus nombreux ?
Alors, il y a effectivement tout un courant qui se développe, qui est une sorte des néo-malthusiens, on appelle ça, qui nous disent qu'effectivement, le souci, c'est qu'on est trop nombreux. Je serais tentée de dire qu'on est surtout trop nombreux dans ce cas-là dans les pays très riches. Parce que c'est nous qui créons la pollution. La réalité aussi, c'est que nous avons déréglé le climat, nous avons détruit la biodiversité. Donc nous avons, en tant qu'Occidentaux et pays dits développés, une responsabilité vis-à-vis des autres pays. Donc le sujet est de réduire un maximum notre empreinte environnementale pour permettre aux autres de pouvoir polluer. Parce qu'on leur a volé ce droit, en fait, tout simplement.
Responsabilité du Nord global vis-à-vis du Sud global et décroissance démographique. Jean-Marc Jancovici.
Alors, la décroissance démographique.
C'est un sujet tabou.
Il n'y a pas que Malthus qui en ait parlé. On parlait tout à l'heure de Dennis Meadows.
À l'origine du rapport qui a été donné au Club de Rome en 72 sur les limites de la croissance.
Eh bien, le travail qu'avait fait Dennis Meadows et l'équipe et du MIT. Était un travail de ce qu'on appelle de la dynamique des systèmes. Donc ils avaient regardé comment est-ce que la population humaine sur une planète qui est limitée, dont le diamètre ne change pas...
13 000 km.
Ça ne bouge pas au cours du temps, pouvait se comporter en fonction de la manière dont elle utilisait ou pas les ressources qui nous environnent. Et la conclusion, ils avaient fait ça avec un modèle informatique, alors un peu rustique à l'époque, hein, parce que c'était la fin des années 60, mais un modèle assez intelligent. Et donc, quand on regardait le résultat de cette modélisation, ce que disait le modèle, c'est à partir du moment où on souhaite la croissance et où on cherche à avoir la croissance, c'est juste une question de temps avant que le système ne s'inverse et que la population ne se mette à se contracter pour des raisons subies. Voilà. Alors les raisons subies, elles ne sont jamais très agréables, c'est la famine et la maladie, hein, pour l'essentiel. Donc le fait qu'on ne pouvait pas rester à 8 milliards d'individus éternellement avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, sans même parler d'augmenter celui dit des pays dits pauvres, c'est quelque chose qui est ancien dans les débats depuis qu'on a des outils qui permettent d'appréhender ça quantitativement.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? Sobriété ? Alors, tous les étages ?
Il y a plusieurs marges de manœuvre. Hein, ouais. Si globalement, il y a une équation qui s'appelle l'équation de Kaya qu'on évoque dans la BD, qui explique les quatre éléments sur lesquels on peut jouer. Donc on peut jouer sur, enfin on peut jouer, qui interviennent, on va dire. Donc il y a un premier élément qui intervient, c'est la taille de la population. Moi, une blague que je dis souvent, c'est si on était 5 millions sur Terre, et du reste je le dis là aussi, on pourrait tous avoir un SUV, ça ne serait pas un problème. À 5 millions sur Terre, on pourrait tous avoir un SUV.
C'est moche, les SUV, mais enfin, bon, je referme la parenthèse.
Je ne dis pas que ça serait un souhait, et du reste, ça n'en est pas un en ce qui me concerne, mais ça ne serait pas un sujet environnemental. Voilà. À 8 milliards, c'est juste un peu différent. Donc, il y a la taille de la population. Il y a la quantité de biens et services par personne, parce qu'en fait, l'économie est une machine à transformer des ressources. Ça prend des ressources, ça les transforme, donc ça a besoin de prendre des ressources et ça a besoin d'énergie pour transformer. Il y a l'efficacité de cette transformation, qu'on appelle parfois l'efficacité énergétique de l'économie. Et puis, il y a l'efficacité carbone de cette transformation, qu'on appelle parfois le contenu carbone de l'énergie. Et donc, on peut jouer sur ces quatre paramètres pour, j'ai envie de dire, piloter la pression globale qu'on exerce sur l'environnement. Et de fait, la population est un des quatre. Alors, quand je dis on peut jouer dessus, c'est pas simple, évidemment. Non, mais c'est évidemment pas simple. Et en particulier, c'est beaucoup plus simple d'avoir des politiques qui empêchent les gens d'avoir trop d'enfants, ou évidemment qui les poussent à ne pas désirer avoir beaucoup d'enfants, pour être plus précis, que de dire que
d'être
coercitif
et d'empêcher.
Voilà, une fois que les gens sont là, de dire on va les supprimer, c'est un peu plus compliqué quand même.
Alors, justement, c'est
difficile. Je sais que vous voulez poser des questions concrètes.
Oui, parce que je voulais savoir à quoi vous avez renoncé concrètement pour participer en fait à cette défense du vivant, à empêcher ce changement climatique. À quoi avez-vous renoncé qui pourrait servir de source d'inspiration
à ceux qui vous écoutent ? Vous roulez à bicyclette, vous ne mangez plus de viande, vous avez réduit vos achats.
Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de changer de métier.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Alors qu'il y a plus de 20 ans, je faisais un métier différent. Donc, je faisais un métier qui n'était pas en lien avec la résolution du problème.
D'accord.
Voilà. C'est pas neutre, ce que je suis en train de dire.
Tout le monde ne peut pas le faire. Vous êtes d'accord avec moi ? En revanche,
le monde n'a pas les mêmes marges de manœuvre pour le faire. Ça, c'est très clair. Ça dépend, évidemment, de l'univers de choix qu'on a, de l'âge qu'on a.
On ne va pas tous devenir des gens co. Donc, est-ce qu'on prend moins l'avion ?
En ce qui concerne les... Sur la consommation, enfin sur les émissions individuelles, on va dire, sur le mode de vie individuel, on a 5 compartiments qui comptent. Le premier, c'est tout ce qu'on achète. Les vêtements, les chaussures, les meubles, les tables, l'électronique, etc. Donc là, la règle, elle est très simple, c'est en acheter le moins possible.
On change moins, d'accord. Voilà.
La deuxième, c'est ce qu'on mange. Et là, on va dire que le système
animal... Si on ne mange pas de beefsteak, un kilo de CO2 en moins par jour, ce n'est pas beaucoup par personne.
Ça dépend à quel rythme vous mangez du beefsteak. Ouais. Et puis, il n'y a pas que le beefsteak. En fait, vous avez un système bovin complet dans lequel vous n'avez pas que le beefsteak. Vous avez le lait, vous avez le veau, vous avez etc. Mais vous avez en face un autre sujet qui est qu'il y a un certain nombre de régions agricoles dans le monde... où le pâturage est la seule manière de valoriser les végétaux qui sont là. Vous ne pouvez pas manger directement l'herbe par terre, pas très bon, et la seule manière de convertir cette biomasse en des choses qui soient mangeables pour nous, d'où l'élevage ancestral. Donc, il y a un petit sujet là derrière. Il y a un troisième pilier qui est la façon dont on se déplace, enfin un troisième paquet qui est la façon dont
on
se déplace.
C'est ça ?
Donc là, en gros, pour ceux qui... La première marge est la plus facile, c'est d'arrêter de prendre l'avion. Et ensuite, la deuxième, c'est de faire le moins de voitures possible.
Moi, je voudrais quand même vous poser une question, Jean-Marc Jancovici. Pardon, je vous coupe, mais vous êtes un peu en contradiction avec vous-même parce que vous êtes un geek. Or, si on considère à propos du transport aérien que les émissions mondiales du digital sont équivalentes en termes de CO2 à celles du numérique, qu'est-ce que vous faites ? Vous vivez sur les réseaux sociaux. Alors, vous me direz, c'est pour diffuser cette parole environnementale. Mais tout de même, il y a une contradiction à l'intérieur, là.
Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, l'essentiel de mon existence sur les réseaux sociaux, elle n'est pas en vidéo.
Aussi une chaîne YouTube, enfin, il y a des films,
oui,
on peut
mais
voir.
Oui, mais l'essentiel de ce que je publie, c'est du texte.
Ouais.
Texte et images.
Mais ça consomme.
En direct. Ouais. texte et images, pas grand-chose.
Oh, d'accord.
Ce qui consomme vraiment énormément sur Internet, donc le gros de l'empreinte carbone du digital, c'est la vidéo.
Ouais.
La vidéo, aujourd'hui, c'est, on va dire, 70% de l'empreinte carbone du digital. Et c'est ce qui augmente le plus vite. Donc, effectivement, j'en fais un peu.
Mais vous dites qu'il faut renoncer à la 5G.
Oui, et à Netflix.
Absolument.
Bon. C'est un monde de sobriété que nous annonce Jean-Marc.
Mais on aura de la lecture.
Mais bien sûr, absolument. C'est malin, j'ai réponse à tout.
Et des jeux de société. Donc,
en bois.
On ce qu'on veut. Quatrième morceau important, le logement. Donc là, on en a parlé tout à l'heure.
Rénovation.
Et cinquième morceau important pour tous ceux que ça concerne, l'épargne. Parce qu'au travers de l'épargne, on finance ou pas des activités productives qui vont dans le bon sens ou pas. Enfin, dans le bon sens, il n'y en a pas beaucoup, mais qui vont très vite dans le mauvais sens ou qui vont un peu moins vite dans le mauvais sens.
Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais on veut parler des énergies et du nucléaire et des énergies renouvelables. Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud enregistré sur la planète avec un record de 54 degrés dans la vallée de la mort, tristement mal mais bien nommé, en Californie. Selon le GIEC, si l'humanité poursuit sur sa trajectoire actuelle d'émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète en 2100 serait compris entre plus 4 et plus 5 degrés, autrement dit une rôtissoire. Face à la demande dévorante d'énergie, peut-on se passer du nucléaire, une énergie décarbonée? Résumé des débats très vifs sur le sujet avant d'en parler avec vous, Jean-Marc Jancovici.
L'urgence climatique et l'urgence environnementale remettent le nucléaire au goût du jour et forcent le débat à se réouvrir. Et cette fois-ci, hors des dogmes et de l'imagerie finalement qu'on a pu construire aussi avec la pop culture autour du sujet, et plus sur la base de faits, tout simplement, et de faits de science, et de redécouvrir d'autres avantages du nucléaire, qui sont la souveraineté énergétique, la fiabilité de l'approvisionnement, le fait que ça ne contribue pas à la pollution de l'air. Les Français sont en train de redécouvrir cette énergie qui est la leur depuis si longtemps.
Alors, le nucléaire est une énergie bas carbone, effectivement, comme les énergies renouvelables. Par contre, le nucléaire pose toute une série de questions sur son impact écologique à long terme notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la filière nucléaire nous vend des déchets nucléaires qui seraient recyclables. Dans les faits, il y a très peu de pourcentage qui est réellement recyclé. Donc non, en fait, la question des déchets nucléaires n'est pas du tout réglée.
Absolument d'accord. Effectivement, c'est une énergie décarbonée, mais qui produit énormément de déchets, dont une petite partie, 3%, sont très dangereux. Le reste est quand même assez gérable. Mais cette partie dangereuse...
3%, c'est déjà trop.
C'est beaucoup. C'est déjà trop. On peut faire plein de choses pour ça. Il faudrait construire des espaces de stockage en plus, au niveau lac peut-être, ou dans d'autres zones dans l'Aube en France. Mais on peine, on tarde, on tergiverse. Soit on le fait, soit on le fait pas. Mais maintenant, il faut prendre des décisions parce que les quantités de déchets s'accumulent. Et si par contre on n'en prend pas bien soin, comme à Sainte-la-Essène, là ça va devenir un vrai danger.
Je trouve que le débat entre pro et anti-nucléaire se concentre souvent sur la question des risques, la sécurité et la question de la fierté nationale, mais qu'il y a aussi un débat économique qui est très intéressant et qui est mené maintenant depuis une dizaine d'années par la Cour des comptes, en ce qui concerne notamment la construction de l'EPR, de cette très grande centrale nucléaire à Flamanville, où il y a eu un dépassement des coûts de 3,3 voire 4 fois les coûts prévus, où il y a un retard du chantier de 10 ans. Donc il y a un sujet aussi technique quelque part, c'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de faire des centrales post-Fukushima parfaitement sûres et qui correspondent aussi en termes de coûts à quelque chose qui soit comparable au coût de production de l'électricité renouvelable.
La vraie question du débat en France sur l'électricité, c'est de savoir par quoi on va remplacer les centrales nucléaires actuelles qui sont vieillissantes, qui vont devoir fermer quoi qu'il arrive dans 5, 10, 20 ans, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'on construit des nouveaux réacteurs et des renouvelables, parce que quoi qu'il arrive, on aura besoin de renouvelables, ou est-ce qu'on va progressivement vers le 100% renouvelable à horizon 2050? Il y a des solutions qui existent, il n'y a pas de frein technologique, il y a des jalons industriels à franchir. C'est pour ça qu'il faut une feuille de route et une vision à long terme, une planification. Et en fait, c'est vraiment une question de choix démocratique.
Très vite, on se rend compte qu'on arrive dans une butée, une espèce d'impasse. Va falloir qu'on passe à la trottinette électrique, au bus électrique, aux voitures électriques. On a l'augmentation de la consommation électrique de tous les postes multimédia dans la maison, du froid, du chaud. C'est climatisé partout quand il fait chaud, etc. Donc, vous voyez bien qu'on ne va demander à personne de changer ses usages. Et donc, on va avoir besoin d'électricité. Et c'est bien l'impasse dans laquelle tous ceux qui veulent renoncer au nucléaire se trouvent.
Jean, Jean-Marc Jancovici, dans Le Monde sans fin, la BD que vous avez réalisée, coécrite avec Christophe Blin qui dessinait, parce qu'il dessine mieux que vous, ça c'est certain.
C'est pas dur.
Vous évoquez le nucléaire, le nucléaire civil, comme parachute ventral dans nos sociétés et dans le mix énergétique. Est-ce que vous entendez les craintes associées au nucléaire, sa dimension accidentogène et puis aussi toutes les craintes liées à la gestion des déchets du nucléaire? Bien et puis qu'est-ce que veut dire parachute ventral d'ailleurs?
Alors bien sûr qu'on les entend ces craintes parce qu'en fait on les traite dans la BD, en essayant d'expliquer quel est l'objet du débat, pour commencer. Donc on essaye d'expliquer, alors c'est pas facile parce que faire de la physique avec des petits dessins, voilà. Mais on essaye d'expliquer ce que c'est qu'une réaction nucléaire, ce que sont les déchets nucléaires, et du coup on espère comme ça commencer à répondre aux craintes, parce qu'une crainte, la première manière d'y répondre, c'est de dire de quoi on parle. D'accord. Il y a quand même eu beaucoup, je ne devrais pas dire ça sur un plateau de télé, mais quand même, il y a quand même eu énormément d'émissions, de débats sur le nucléaire, où on a fait l'économie de la définition de ce dont on parle. D'accord. On dit qu'il y a des déchets, mais personne ne sait de quoi se composent les déchets. On ne sait pas s'il y en a beaucoup, peu. Est-ce que vous savez me dire quels sont les éléments chimiques qu'il y a dans les déchets, par
exemple ? Les éléments chimiques, non, mais la radioactivité dure 250 000 ans. Au bout de 250 000 ans, la radioactivité
vous savez que nous sommes radioactifs.
Se termine. Oui, mais pas dans la même dimension que le MOX ou que les déchets les plus radioactifs
Il faut compter.
Qu'il s'agit de mettre sous terre, peut-être, avec un certain nombre de
justement,
risques
il faut compter.
Associés à cet
dit.
Enfouissement.
Il faut compter. Et donc, tant qu'on n'a pas compté, on ne sait pas si c'est très dangereux, un peu dangereux, pas beaucoup dangereux, etc. Vous avez, une des choses qu'on mentionne dans la BD, c'est qu'il y a un réacteur nucléaire naturel qui s'est mis en route au Gabon il y a 2 milliards d'années, à Oklo, qui a donc produit des déchets, exactement comme ceux de nos réacteurs actuels. Et ces déchets, ils n'ont pas été gérés par l'homme, puisqu'il y a 2 milliards d'années, il n'y avait quand même pas beaucoup d'ingénieurs pour gérer les déchets. Ces déchets sont... Donc, ils ont subi un confinement géologique naturel, j'ai envie de dire, là où ils ont été formés. Et en gros, l'essentiel des déchets, ou des descendants des déchets, sont restés là où ils ont été formés. Donc, le confinement géologique, là, il a duré, pour certains déchets, 2 milliards d'années. Donc, le fait qu'on mette les déchets dans un trou sous 450 mètres de terre, personnellement, ça ne m'empêche vraiment pas de dormir.
Ça ne vous empêche pas de dormir, mais il peut y avoir des risques. Des risques d'incendie s'il y a de la radiolyse avec l'hydrogène,
si on interdit,
des risques de fuite d'eau, des risques géologiques,
tout ce qui comporte des risques. On interdit les escaliers.
Oui.
Les morts par an.
L'analogie est facétieuse.
Non, c'est pas une analogie.
Mais tout
c'est pas du tout. Non, on interdit les voitures, on interdit le tabac, on interdit les téléphones parce que les gens ont des accidents, parce qu'ils regardent leur téléphone en conduisant. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que la vie, comme disait, je sais plus trop quel humoriste, la vie est pleine de risques puisqu'on finit par en mourir. Donc la question est celle de la hiérarchie des risques. Et ce qu'on essaye d'expliquer dans Le Monde sans fin, c'est que dans la situation très contrainte dans laquelle nous sommes aujourd'hui et dans la course contre la montre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, se passer de nucléaire augmente globalement les risques. Donc recourir au nucléaire ne supprime pas les risques, mais il y a moins de risques dans un monde qui accepte de faire de nucléaire que dans un monde qui n'accepte pas de le faire.
Alors, quid des énergies renouvelables? C'est là où je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'on fait de l'éolien? Vous n'êtes pas du tout convaincu par cette énergie?
Si, on est très convaincu.
Dans quelle mesure?
On explique dans la BD qu'on avait plein d'éolien avant de passer au combustible fossile. Donc, on explique dans la BD que le monde renouvelable...
Parlez des moulins.
Le monde renouvelable... Comment est-ce qu'on a fait une civilisation industrielle en passant au combustible fossile? Il y avait des génies avant le pétrole, le gaz et le charbon. Je pense que Léonard de Vinci ou Mozart étaient plus brillants que n'importe lequel d'entre nous autour de cette table, sans aucun problème.
Mais Jean-Marc Jancovici...
On n'a pas réussi, on n'a pas réussi avant les combustibles fossiles, avec juste des énergies renouvelables, à créer des classes moyennes, avec le pouvoir d'achat qu'elles ont, une voiture par personne, la civilisation urbaine...
Donc ces énergies renouvelables sont illusoires.
Donc c'est illusoire de penser que nous allons maintenir le monde actuel sans combustible fossile, absolument. Et ce qu'on en conservera du monde actuel, qui sera nécessairement une fraction seulement, va dépendre de la façon dont on va articuler renouvelables modernes, parce qu'elles sont plus modernes que les anciennes, nucléaires et sobriété. Et il y a une articulation un peu fine à trouver de tout ça. Dans le portrait que vous avez dressé de moi tout à fait au début, je dis qu'il est essentiel de mettre les cervelles les plus brillantes sur ce problème qui est un des plus indémerdables qu'on ait à traiter. Et c'est exactement ça que je suis en train de vous dire.
Jancovici, par rapport aux renouvelables, par rapport à l'éolien et au solaire, il y a un problème de stockage. Vous êtes ingénieur. Vous avez confiance dans la capacité de l'homme, du terrestre, du sapiens à trouver des solutions, c'est ce que vous passez votre temps à dire. Donc il est vraisemblable qu'on trouvera très prochainement une manière, une solution pour stocker ces énergies-là.
Eh bien,
ou pas, ou vous n'avez pas confiance.
Ça n'est pas mon avis, je ne pense pas qu'on y arrivera à l'échelle.
Mais vous pouvez l'affirmer avec une preuve scientifique ou non ?
On peut faire des calculs. Ça s'appelle faire des calculs.
C'est votre intuition.
Ce n'est pas une intuition, ça s'appelle faire des calculs.
D'accord.
Aujourd'hui, sur Terre, la puissance de stockage, c'est-à-dire la puissance des dispositifs qui sont capables d'absorber de l'électricité sur un réseau quand il y a de l'électricité en excès, c'est 2% de la puissance de production. Là-dedans, les batteries dont on dispose aujourd'hui sur le réseau, c'est 0,5% ou 1% de la puissance de stockage, qui elle-même fait 2% de la puissance de production.
C'est QFD.
Quand vous regardez la quantité de lithium qu'il faudrait pour avoir suffisamment de batteries, pour avoir mondialement des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries au même niveau de production qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce lithium n'existe pas.
Bon.
Donc, on peut penser qu'on va y arriver, mais il n'y a pas de solution, par exemple, pour doubler le diamètre de la Terre. Vous voyez, il n'y a pas de solution. Donc, il y a des problèmes dont on sait qu'ils sont sans solution aujourd'hui, et il est important de le savoir le plus tôt possible pour ne pas courir derrière des chimères.
Je peux vous proposer de recevoir à vos côtés une vigneronne qui s'appelle Sylvie Augereau qui va nous rejoindre. Bonsoir Sylvie Augereau. Non, vous n'êtes pas vigneronne, vous êtes vinereuse, un adorable mot valise qui signifie combien fabriquer du vin naturel de façon artisanale sur une parcelle à taille humaine, 1,5 hectare dans le Val-de-Loire, vous comble. Bonsoir, on est donc ravis de vous accueillir dans ce hors-série consacré à l'environnement et au réchauffement et au dérèglement climatique. Je précise que vous avez fait paraître le vin, par ceux qui le font et pour ceux qui le boivent. Je l'offrirai à notre invité ici présent à la fin de l'émission. Et je voudrais vous poser la question, Sylvie Augereau, le dérèglement climatique, y êtes-vous confronté depuis les années où vous travaillez sur votre parcelle, donc depuis 10-15 ans ?
Moi, je me suis insérée en 2014, donc c'est,
mais
c'est
beaucoup plus récent, 8 ans.
Et je suis imprégnée de ce monde depuis, quelques dizaines d'années quand même déjà. Et aujourd'hui, la plupart des vignerons disent qu'ils n'ont jamais vécu un millésime comme le dernier qui est arrivé, même sur 30 ans. Hein, très belles images. Et on a vécu une réelle année de merde.
Mais les intempéries, la chaleur, la chaleur un peu trop tôt. Inusitées.
Voilà, la chaleur un peu trop tôt en hiver.
Ouais.
Donc la vigne un peu en avance. Ouais. Et puis des gels terribles pendant 15 jours d'insomnie, des batailles menées... Dès le réveil par ces gens d'ailleurs que vous voyez sur les photos, des bougies, des hélicos, des bottes de foin. On n'est plus dans un métier très très calme.
Je sais que vous vouliez vous poser une question.
Ah bah oui, parce que Jean-Marc Jancovici. Moi j'ai découvert. Vous savez comment on distingue une vigne qui est bio d'une vigne qui n'est pas bio ?
Ah oui.
Est-ce que vous savez ? Pour une fois, peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse. Dites-moi.
Normalement, une vigne bio est une vigne qui n'utilise pas d'intrants de synthèse.
C'est ça.
Bon, mais alors, dites-nous concrètement, Sylvie Augereau, comment on fait ?
Le vrai moyen...
Oui.
C'est vrai, pratique. Mais ça va encore plus loin que ça.
Faire pipi dans les vignes. Quand on fait surtout pour une fille qui est accroupie.
Alors, expliquez-nous pourquoi pisser dans la vigne...
Parce que l'eau est absorbée.
D'accord. Et sinon Et alors sinon, quoi ? Et alors, la terre gorgée d'intrants chimiques, qu'est-ce qui se passe ?
Surtout, c'est que c'est devenu du béton. Elle est plus vivante.
D'accord.
Voilà, il n'y a plus de biologie dedans. Il n'y a plus grand monde.
Il n'y a plus de lombrique.
Du coup, c'est comme un trottoir où l'eau glisse et les inondations.
Comment envisagez-vous cette parcelle ? Le travail du labour, peut-être des chevaux qui viennent vous aider parce que le cheval n'écrase pas le sol et qu'éventuellement il l'enrichit. Aucun intrant chimique. Comment envisagez-vous votre rapport à la terre ?
Amoureux.
De manière un peu lyrique, mais
amoureux. C'est un rapport amoureux. C'est marrant parce que quand on parle aujourd'hui beaucoup de biodynamie, en citant des Steiner et des trucs un peu ésotériques. Et moi, plus je me dis que la biodynamie, c'est juste de l'amour. C'est juste l'attention qu'on prête à un être vivant avec lequel on passe toute notre vie, parce que la vigne, ça dure plus longtemps que nous.
Mm-hmm.
Et c'est du toucher, c'est du calme, c'est des bonnes énergies, voilà, plus que des trucs un peu ésotériques. Et quand on dit de la main verte, ça veut vraiment dire quelque chose.
10% de la vigne française est en biodynamie. Vous vouliez poser une question à Sylvie Augereau à propos du rapport financier.
Tout à fait. Est-ce que ça vous coûte plus cher ? Est-ce que vous gagnez de l'argent ? Est-ce que vous gagnez votre vie ?
C'est plus de main d'œuvre, plus esclave. Oui.
Mais j'espère qu'on est payé quand même.
Oui, oui, évidemment. Malheureusement, pas assez cher. Non, mais vous avez un chiffre absolument impressionnant. Pour désherber un hectare, si on utilise des produits phytosanitaires comme du Roundup, j'ai même pas envie de le nommer, mais ça existe, il faut une journée. Si on le fait à la main, il faut 40 jours. Il est là le rapport ?
Il est là. Il est là surtout dans un domaine bio, très pentu, très difficile à accéder par les machines. Voilà, et les machines, je suis assez d'accord que c'est plus on s'en passe, mieux on est. Nous aussi, d'ailleurs, les hommes aussi, parce que ça fait mal partout, les tracteurs.
Mmh. Alors, Jean-Marc Jancovici, à propos de l'agriculture, dans la bande dessinée que vous avez faite et signée avec Christophe Blain, et ça va évidemment intéresser Sylvie Augereau, vous évoquez un futur inéluctable où il devra y avoir moins de gens qui travailleront dans le tertiaire, dans les métiers du service, et où ces gens devront redécouvrir l'artisanat, revenir à l'agriculture, au circuit court, on en parlera avec vous, et au réseau solidaire.
Quand on regarde à quoi ressemblait la population active dans un monde avant les combustibles fossiles, l'essentiel était au travail de la terre. Mmh. La population active en France, il y a deux siècles, c'était 2/3 d'agriculteurs, paysans, et puis 1/3 de gens qui faisaient autre chose. Et le fait urbain est un fait énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut beaucoup d'énergie pour être capable de soutenir une ville, parce qu'elle a besoin de flux qui ne prennent pas place en son sein. Par exemple, l'Île-de-France produit 6% de ce que mangent les Franciliens. D'où vient le reste ? D'ailleurs, comme les Franciliens ne sont pas ailleurs, ça a été fait par des tracteurs, ça a été fait par des engrais, ça a été fait par des phytosanitaires, ensuite c'est transporté, transformé, transporté, emballé, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc, dans un monde qui sera plus sobre en énergie, il va falloir pour partie faire le mouvement inverse. Donc, effectivement, on ne pourra plus soutenir de grandes villes. Une conurbation à 10 millions d'habitants, c'est pas soutenable dans un monde sobre en énergie. Oui, j'insiste, ça sera pas soutenable.
Puisque le Grand Paris, c'est complètement anachronique.
C'est anachronique, le Grand Paris, absolument. Il faut faire maigrir Paris à partir de maintenant et pas grossir Paris. Oui. Il faut évidemment remettre du monde dans la ruralité et en particulier dans le travail de la terre. Ça pose évidemment un sujet économique, parce que c'est pas du tout comme ça aujourd'hui qu'on conçoit l'avenir de l'économie. Les gens sont pas vraiment confortables avec l'idée qu'il va falloir payer la nourriture plus chère, mais c'est quand même le sens de l'histoire. Elle nous coûtait beaucoup plus cher il y a deux siècles qu'aujourd'hui. La nourriture, elle coûtait beaucoup plus de la moitié de ce qu'on gagnait. Donc, il y a effectivement cette histoire qu'on essaye de raconter dans Le Monde sans fin, qui est que l'urbanisation de la population, c'est une marque de l'abondance énergétique, et que la décrue énergétique va forcer à penser un aménagement du territoire qui sera très différent.
Sylvie, aujourd'hui, vous vous occupez aussi d'une une réunion des producteurs de vins artisanaux, de vins naturels, la DIV Bouteille. De manière très concrète, est-ce que vous vivez de la terre, de votre activité de vigneronne?
Je vis de multiples choses.
D'accord. Très bien. Donc voilà, l'astuce, et on n'en dira pas plus.
Non, tout est complémentaire.
Par pudeur.
Tout est complémentaire. Non, parce que... c'est ce que j'espérais au début.
C'est ça.
Et vous, Jean-Marc Jancovici, vous buvez que du vin naturel ou pas?
Je bois assez peu de vin d'une manière générale, et donc maintenant que je suis physiquement séparé de ma voisine et qu'elle peut pas me taper dessus,
donc
j'ose avouer que je bois aussi du vin conventionnel.
Mais vous avez raison, il faut faire vivre tout.
Vous avez raison, car il peut lui arriver d'en boire aussi.
À moi,
je crois. Non ? Non. Moi, très bien. Vraiment, alors attendez, ne répondez pas. Par contre, répondez-nous. Vous êtes bien la filleule de Jean Carmet ?
Oui.
C'est alors
ça.
Regardez.
J'ai
ça. Grandi avec lui. Regardez cette archive.
Le vin évolue d'un kilomètre, mais à 300 mètres, l'éclairage change, le terrain change, la main du viticulteur n'est pas la même. Dans le vin, il y a quelque chose de total. Il y a un voyage permanent dans le vin, quand on sait boire, et quand c'est du bon vin. Bon, il y a des saloperies innommables dans lesquelles on ne peut même pas. Il n'y a rien qui vous fait rêver.
Sylvie Augereau,
c'est grâce à lui que je bois. Hein.
Je croyais que vous alliez dire c'est grâce à lui que je suis vigneronne. Ah, carrément.
Non, mais en grandissant avec des gens comme ça, quand ils ouvrent une bouteille, ont le sourire et la joie, on dit ah, ok, le vin, c'est ça. C'est le partage, c'est la joie.
C'est ça. Et la transmission aussi, parce que vous dites, ça y est, il y a une deuxième génération quant à ces vignobles de vin naturel, et il y a une véritable transmission.
Il y a une transmission, parce que de toute façon, en fait, ça ne se reprend pas dans les écoles.
Oui.
Donc, il faut aller chez son voisin, lui expliquer son problème. Ou même, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à boire. Faire du vin naturel.
Une accumulation de lapsus. Et pourtant, ce plateau est à l'eau. Vous pouvez confirmer. Est-ce que vous aimez Brassens tous les deux, Georges Brassens? Et vous?
Oui, évidemment.
Bien sûr. Alors, je vous propose de découvrir Il n'y a pas d'amour heureux, le tube de Georges Brassens, examiné à la loupe par Mathieu Conquet. C'est un mélomane. Et ça tombe bien puisque l'année du centenaire de la naissance de Brassens arrive à son terme.
À la loupe aujourd'hui, une musique amère en forme de prière.
Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
En 1953, Georges Brassens adapte un poème de Louis Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux. Écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, publié en 1944, le texte de ce résistant communiste évoque un amour inaccessible et la fragilité du destin. Si le Sétois a toujours dit son admiration pour les belles lettres de François Villon à Paul Valéry, il ne suit pas à la lettre le poème d'Aragon et l'ampute même de sa dernière strophe au caractère patriotique.
Ça va de soi.
Des années plus tard, d'autres chanteuses, et non des moindres, reprendront la version de Brassens. Françoise Hardy, Keren Anne,
il n'y a pas d'amour heureux.
Nina Simone enfin dans son dernier album pour une lecture pleine de lyrisme.
Il n'y a pas d'amour
heureux. Mais revenons à Brassens. Il réutilise la même musique qu'il a composée pour adapter un autre poème de Francis James.
Déshabillé par le fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie.
Exactement la même musique donc pour chanter cette fois les vers d'un écrivain catholique. Diable. Brassens opère des coupes dans le poème Rosaire qui lui a inspiré la prière et change légèrement le sens du poème pour lui donner une fin plus optimiste.
Par le baiser perdu, par l'amour donné et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie.
La raison de cette double utilisation du même timbre et de la même mélodie est tout simplement pratique. Brassens s'est aperçu que le poème de Francis James avait le même maître, la même rythmique et qu'il se chantait bien sur la même musique qu'Aragon. Qui a dit que Brassens n'avait ni Dieu ni maître ?
Superbe Mathieu Conquet, voilà, c'est l'heure de se quitter. Je vous offre, Jean-Marc Jancovici, l'ouvrage de Sylvie Augereau, avec une phrase de Colette, l'écrivaine que nous aimons tant en exergue. Merci Sylvie Augereau. Je vous offre le bouquin de Jancovici et Christophe Blain. Vous en avez pour deux jours, hein, pendant que vous désherbez, etc. Et je précise qu'il faut boire avec modération. On se quitte. Merci encore à tous les deux d'avoir participé à ce hors-série. On se quitte avec un clin d'œil bucolique. Le troupeau de Jean-Louis Murat. À demain, 20h05. Tchuss.
Pourtant le soleil est haut. Dans l'azur, pas de menace. Je rêve parmi les chevaux.